France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Notre invité à Aix-en-Provence dans les studios de France Bleu Provence, Jean Viard, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, notamment consacrés aux vacances, et il a publié tout récemment un essai aux éditions de l'Aube, « Le moment est venu de penser à l'avenir ». Jean Viard, un mot de la situation de la France aujourd'hui. Je posais la question à Monseigneur Pontier à 8h10. Est-ce que selon vous, la France est confrontée à un risque de rupture communautariste? C'est ce qu'affirment certains dirigeants de la droite.
Écoutez, je répondrai en sociologue. Quand on regarde études, les analyses, au fond, le cœur de la société est solide. C'est-à-dire que la grosse masse des Français ont compris que ces fascistes qui foutent des bombes à droite et à gauche, excusez-moi d'être un peu direct, je veux dire, ne sont pas sortis d'abord de la religion musulmane, même s'ils s'y rattachent, etc. Donc au fond, le cœur de la société est solide. Pour une raison qu'il faut toujours dire, c'est que le cœur de la société, les écarts de richesse, etc., sont moins forts, et de culture, sont moins forts qu'ils étaient avant. Ce qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'il y a un cœur central, et puis effectivement, il y a deux bouts, il y a des pauvres qui sont plus pauvres, et il y a des riches qui ont perdu tout sens de la bonne mesure des choses. Donc c'est ça qui se passe. Donc je pense que si vous voulez, au cœur de la société, non. Maintenant, il y a deux choses qui sont dangereuses. D'une part, la montée, j'allais dire, en réaction, comme on avait connu dans les années 30, où effectivement, entre nazisme et communisme, il y avait un jeu de montée. Ça, il y a un risque qu'il y ait des mouvements à l'extrême droite, qu'il y ait des ligues qui se créent. C'est des phénomènes minoritaires, mais qui sont un peu la réponse, qui ressemble au mouvement terroriste. Il y a une autre chose qui est dangereuse, c'est les opportunistes politiques. Regardez Cameron. Il fait exploser l'Europe pour faire perdre de la tactique. Finalement, il est plus dangereux pour l'Europe que la famille Le Pen. Donc, regardons aussi le risque des opportunistes. Et si on regarde comment l'URSS était déstructurée, c'est bien souvent par des opportunistes qui essayent de se positionner politiquement en jouant sur des peurs. Et finalement, ils n'en sont pas eux-mêmes vraiment le cœur. Mais d'une certaine façon, l'opportunisme en politique en cette période est très dangereuse.
Et quel est le regard du sociologue Jean Viard sur ce qui s'est passé là à Cannes et à Villeneuve-Loubet, où les maires ont décidé d'interdire le burkini sur leur plage? À Cannes, cette décision du maire a été validée par le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais il y a deux choses. Il y a le droit. Moi, je suis pour le respect du droit. Or, en principe, si le burkini n'est pas interdit, il est autorisé, donc les gens peuvent en mettre sur les plages. Après, moi, personnellement, politiquement, je suis contre. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, c'est une marque d'extrémisme. Donc, je suis contre. Si je devais voter, je voterais contre. Mais c'est pas un sujet de vote, si vous voulez. Mais je pourrais dire les choses autrement. Vous savez, moi, je n'ai pas d'amis qui sont des cadres du Front National. Je n'aurai pas non plus d'amis qui portent le burkini. Pour moi, ce sont des formes politiques extrémistes qu'on met dans l'espace public. Le burkini n'est pas relié directement à la religion musulmane. Il est lié à une tendance religieuse assez extrémiste. Après, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, je veux dire que si vous voulez, ce n'est pas interdit. Chaque maire gère l'ordre public dans son territoire. C'est extrêmement difficile, on vient de le voir en Corse. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y aura des décisions qui seront un peu pour essayer d'apaiser la paix sociale. Mais disons une chose, il faut reconnaître plus de respect à l'islam. Ce n'est pas le fond du débat. Moi, j'espère un jour, comme aujourd'hui, qui est un jour chrétien, j'espère qu'un jour vous m'inviterez pour un jour férié de la religion musulmane. Je pense que quand il y a 10% d'une culture, elle mérite en tant que culture cette place. Mais à côté, chacun doit aussi accepter que la société est à fleur de peau, qu'il se trouve que tous les terroristes, même si tous les islamistes ne sont pas d'origine musulmane, il y a y compris des jeunes français, etc., mais quand même le cœur du terrorisme est là. Donc la société est à fleur de peau. Je pense que les musulmans doivent autant que faire se peut aussi être un peu discrets. C'est une chose qu'on peut accepter en période de violence.
Vous nous dites, la société française est à fleur de peau. On a encore vu ce qui s'est passé hier près de Bastia avec ces affrontements extrêmement violents entre une famille d'origine maghrébine et puis des habitants de Cisco. Il a fallu mobiliser une centaine de policiers et gendarmes pour mettre fin aux affrontements. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Mais d'abord, ça nous dit qu'on a monté cette affaire du burkini depuis quelque temps à cause de cette histoire près de Marseille, de gens qui avaient réservé un lieu privé. Dans un lieu privé, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent être tout nus, ils peuvent se baigner tout habillés. Je veux dire, je m'excuse, mais on est dans un pays où il y a des camps de naturistes. Bon, il y a des règles. On peut très bien se baigner en burkini dans un espace réservé. Or, on en a fait un scandale. Ce n'était pas scandaleux.
Mais je rappelle, c'est une association qui avait donc loué un lieu privé.
Qui avait loué un endroit fermé ce jour-là. Et donc, effectivement, les gens font absolument ce qu'ils veulent.
Et l'association avait demandé aux femmes de venir en burkini.
Tout à fait. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû raconter l'histoire, mais je pense que les gens la connaissaient. Donc, on en a fait une affaire. Non, après que, effectivement, les modes culturels qui s'expriment, si vous voulez, on a été habitué en France à ce que l'islam soit caché. Et donc, il se trouve qu'effectivement, l'islam est... la culture musulmane, on est en train de comprendre que c'est une grande culture dans l'espace français. Voilà, maintenant, il y a à peu près 10%, 8-10%, pas de gens qui vont à l'église. Il y a 22% des gens d'origine musulmane qui vont, effectivement, qui participent à des manifestations religieuses, un peu plus que les catholiques ou les protestants ou les juifs. Donc, ne mélangeons pas les choses. Mais la culture musulmane devient une culture légitime, ce qu'elle n'a jamais été. Je vous rappelle qu'en 1906, quand on a fait le Concordat, il y avait déjà 2 millions de musulmans, sauf qu'ils étaient en Algérie. Alors, l'Algérie, c'était la France, mais pas pour les musulmans. Donc, si vous voulez, là, on a un retard énorme. Alors, je voulais dire, ce n'est pas une réponse au terrorisme. Mais disons-nous, on n'a peut-être pas été tout à fait à la hauteur depuis un certain temps. Donc, faisons une place. Mais après, ce n'est pas une raison pour favoriser des extrémismes. Je pense qu'effectivement, autant que faire se peut, chacun doit faire attention parce qu'on est dans une période dangereuse.
Les réactions sur les réseaux sociaux au propos de Jean Viard ce matin, c'est Camille Magnard qui suit les réseaux sociaux. Camille ?
Et Jean Viard, le choix des mots est important. Au niveau sémantique, nous demande Florent, donc sur Twitter, est-ce qu'on ne devrait pas parler simplement de fasciste plutôt que de terroriste ? J'ai entendu que vous avez utilisé ce mot de fasciste il y a quelques minutes.
Ben, si vous voulez, ils sont terroristes parce qu'ils nous terrorisent. Donc, je dirais que c'est le résultat de leur action. Moi, j'utilise le mot de fascisme vert. Mais c'est aussi pour faire comprendre les choses et pour montrer que c'est un mouvement politique. Parce que je pense que, si vous voulez, c'est d'abord un mouvement politique, même s'il se trouve que les perdants-perdants de la mondialisation étant souvent issus de la culture musulmane, effectivement, un mouvement salafiste extrémiste a pu structurer des liens. Vous savez, le mouvement communiste, à l'époque de l'URSS triomphante, il structurait aussi des liens entre les plus malheureux de nos milieux ouvriers, et puis l'URSS, et bon, il faut se rappeler comment fonctionnent ces choses. C'est pas radicalement différent comme phénomène. Moi, j'utilise le mot fascisme vert pour dire les choses, pour essayer de les dire d'une manière non religieuse, et je crois que c'est important, parce que je pense que la laïcité, c'est le fait que les églises n'ont pas à intervenir dans l'espace politique, mais c'est aussi que la politique n'a pas organisé les églises. Et si vous voulez, en ce moment, là, j'entends beaucoup de choses. Moi, je n'ai vu aucune étude qui me dise que les imams venus de l'étranger sont plus extrémistes que les imams nés en France. Donc, j'attends cette étude pour savoir si vraiment le critère c'est l'imam étranger, ah ça il n'en faut plus, l'imam français, ah ça c'est un bon imam, on verra.
Et que pensez-vous de cette perspective, Jean-Pierre Chevènement qui dit qu'il est prêt à prendre la direction de cette fondation pour l'islam de France qui ne fonctionnait pas bien? Il est l'homme de la situation, Jean-Pierre Chevènement?
Écoutez, je ne suis pas un homme politique, je suis un intellectuel, mais moi je pense qu'il faut laisser les musulmans s'organiser entre eux.
On a reçu pas mal d'appels au standard, les auditeurs qui ne souhaitent pas venir sur l'antenne. À propos de ce que vous évoquiez, les exclus, les quartiers abandonnés, les victimes de la fracture sociale. Et on dit souvent que ces jeunes exclus, ça peut faire des recrues pour le terrorisme. Que pensez-vous, vous, en tant que sociologue, de cet argument qui est souvent utilisé ? Que les réseaux de Daesh sont capables de recruter dans ces zones, en France, totalement abandonnées.
Non mais d'abord ces zones ne sont quand même pas totalement abandonnées, heureusement, parce que sinon ça serait encore pire. On y trouve d'ailleurs essentiellement des écoles et effectivement des caisses d'allocation familiale. Mais enfin bon, elles ne sont pas complètement totalement abandonnées. Mais il est vrai que la plupart des terroristes venaient de ces quartiers, la plupart. Alors il y a d'autres éléments qui jouent, il y a la mémoire coloniale, etc. C'est pas monolingue, mais il est clair, si vous voulez, que la question en France, d'un point de vue, on pourrait dire philosophique, la France est un pays moniste, donc on voudrait tous avoir la même origine, la même forme, la même couleur de cheveux. On est devenu une société diversifiée, mais on n'est pas arrivé à le désirer. Et pour l'instant, au fond, l'idée qu'il y a 10% de gens qui viennent du monde musulman, qu'il y a effectivement des gens qui viennent d'autres endroits, qu'il y a le développement d'une communauté chinoise. Regardez la violence qu'on fait aux touristes chinois. J'ai vu dans le journal une centaine de touristes attaqués à Paris. Il faut que ce pays accepte sa diversité comme une force et pas comme une souffrance, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est ça la question absolument fondamentale. Après, il faut aussi que chacun il trouve sa place. Donc c'est une question de longue période. On a été un pays qui avons créé des choses absolument extraordinaires, mais on n'a pas forcément... C'est tout le débat qu'on entend encore, si vous voulez, sur assimilation ou tout ça. Mmh. Non, on est devenu un pays de la diversité parce que le monde moderne, c'est un monde de mobilité, c'est un monde de déplacement. C'est pour ça qu'il faut savoir rediscuter des règles. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Comment on apprend nos valeurs? Moi, je dis toujours, il y a 4 valeurs, c'est Pierre qui le dit. Il y a 4 valeurs fondamentales. Se reconnaître dans la philosophie des Lumières, se reconnaître dans la révolution Révolution française, se reconnaître dans la culture française, se reconnaître dans la laïcité. C'est ça, au fond, être français, si vous voulez. C'est pas être blond, ni être né d'un endroit ou un autre. Et la construction de ce « nous », il a effectivement, il doit s'ouvrir, il doit se transformer. C'est ce que la réponse que je vous ai fait tout à l'heure sur qui doit diriger la communauté musulmane. Pour moi, c'est naturellement un musulman, mais dans les règles françaises du financement fiscal. Est-ce qu'il est musulman les mêmes droits fiscaux que les autres, par exemple, pour déduire les dons qu'ils font de leurs impôts? Est-ce qu'on arrive à l'égalité de ces différentes positions, de ces différentes cultures? Et vous savez, les jeunes des quartiers. D'abord, dans les quartiers, il y a un tiers des logements, voire un quart, qui sont occupés par des femmes seules avec enfants. Donc, la première misère des quartiers, c'est la solitude des mamans. Il y a 1,5 million de mamans là et 2 millions d'enfants, en grande difficulté. Des femmes souvent très isolées. C'est le cœur de la pauvreté. Ces femmes, c'est 55% des clients des Restos du Cœur. À 73%, elles n'ont pas de relations sentimentales régulières. Donc, regardons nos quartiers avec les yeux de ce qui s'y passe. Est-ce que ces mamans sont prioritaires en crèche? Non. Est-ce que les jeunes des quartiers, on leur dit, tu peux aller faire finir ta terminale en centre-ville? Tu auras une chambre en cité, en ville. Est-ce qu'on leur donne des chances d'aller dans le cœur de nos métropoles, se créer la ville moderne? Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le être français, c'est connaître la France. Le départ en voyage à 16 ans, alors que les colonies de vacances reculent. Donc, si vous voulez, sur toutes ces questions-là, il faut remettre à plat un certain nombre de nos réflexions. Il ne suffit pas d'aller à l'école de la République pour forcément devenir un républicain profond, parce que ça dépend de l'école, ça dépend où elle est. Le décrochage scolaire des gamins de 12-13 ans, c'est des dizaines de milliers de gamins. Donc, il faut regarder la réalité. Parce qu'à un moment, sinon, on dit aux gens république, république, et ils disent, c'était pas pour moi.
Jean Viard, une question pour vous au standard. Gérard nous écoute ce matin et dans le Finistère. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour à tous.
Jean Viard vous écoute.
Moi, j'interviens sur le fait que, notamment, c'est plus mettre l'accent sur le vote Le Pen, c'est pas forcément dû au manque de travail ou à de la misère. Il y a aussi une forme de racisme. Et on peut constater qu'en France ou même ailleurs ou dans d'autres pays que le racisme est en train de monter. Ou en fait, on va dire que la bête n'est jamais morte, quoi. Il y a toujours un taux de racisme qui a toujours été latent en France ou ailleurs. Et suivant les événements, je l'ai vécu pas ici dans le Finistère. On est vraiment protégé, je trouve. Mais pour avoir vécu il n'y a pas encore si longtemps dans le 91, il suffit d'écouter ou de parler avec des gens, c'est effroyable, quoi, les commentaires qu'on peut entendre ou qu'on peut recevoir, quoi.
Par exemple, vous parlez du 91.
On n'est plus chez nous. Moi, je vois par exemple, j'ai eu l'occasion de constater pas plus tard que samedi soir ici dans le Finistère avec des Parisiens, Sainte-Geneviève-des-Bois. On n'est plus chez nous. Il y en a partout, quoi. Voilà. Bon, je fais court, mais c'est ça, quoi. Ouais. Donc, et ça, pour moi, c'est du racisme, c'est pas autre chose.
Sur ce témoignage de Gérard, Jean Viard, une réaction?
Non, mais ce témoignage, on l'a tous entendu. Mmh. Enfin, on a tous entendu le témoignage, mais on a tous rencontré ces situations. Même s'il n'y a pas superposition absolue, je pense qu'il y a des gens qui trouvent, en gros, qu'on n'est plus chez nous, qui ne votent pas Front National. Il y a des gens qui votent Front National et qui n'ont pas forcément des projets aussi extrémistes. Mais il est clair que le Front National s'inscrit dans une tradition qui construit la communauté sur l'exclusion des autres. C'est ça, au fond, l'extrême droite, hein. Donc, depuis qui a un héritage, etc. Bon, et il se trouve qu'en ce moment, partout en Europe, ce phénomène se développe. Regardez Trump. Qu'est-ce que c'est Trump? C'est une sorte de mélange entre Berlusconi et Mussolini. Enfin, je veux dire, on est dans cette période-là. Bon, on est dans cette période-là, et il est clair que des tas de gens qui se sentent décrochés, jamais le monde n'a changé aussi vite. Je vais vous donner un chiffre qui me fascine. Il y a 35% des premiers-nés en France cette année qui sont nés dans les liens du mariage. Donc, la société change, mais dans notre vie la plus intime. Moi, quand je suis un vieux 68-ard, on était anti-mariage, mais jamais on aurait pensé qu'on arriverait à un tel résultat, si on peut appeler ça un résultat. Donc le monde change à toute vitesse par le monde numérique, par les voyages, par les déplacements, etc. On est clair que la partie chômage, qui est une partie dramatique, mais il y a tous les autres bouleversements. Alors les gens ont peur, et les modèles changent. Et donc le Front National, il y a un cœur idéologique, c'est complètement clair. Et puis il y a, j'allais dire, les perdants petits blancs de la mondialisation, c'est-à-dire le monde ouvrier, ces populations-là, les gens du grand périurbain, si vous voulez, les gens qui au fond ont bâti leur vie pour s'acheter une petite maison avec un jardin, deux voitures, diesel, ils y arrivent vers 40-50 ans. Ce modèle, on les a financés, on leur a fait des prêts. Et d'un coup, on leur dit non, mais t'es complètement nul, il faut circuler à vélo, ouais, et ton truc, il est pas écolo. C'est vrai que c'est pas écolo, mais c'est, donc il faudra modifier le modèle. Mais en même temps, ça a été la réussite d'une vie. Donc, il faut comprendre aussi la vitesse des changements possibles dans les milieux populaires, leur donner le temps de transformation, ouais, et ne pas les rejeter parce qu'ils ont deux voitures diesel qui sont vieilles et qui polluent. Donc, il faut arriver, ouais, à gérer un changement civilisationnel qu'on n'a jamais connu, avec le réchauffement climatique, avec l'Afrique qui explose à la fois en développement et en population, avec des problèmes que ça nous pose, avec la révolution collaborative qui bouleverse le monde du travail, le monde n'a jamais changé aussi vite sur des fondamentaux essentiels. Donc c'est normal d'avoir peur.
Jean Viard, on approche de la fin de l'émission en ce 15 août, c'est un peu le pic des vacances. Il y a un hors-série du 1 qui est sorti cet été, à quoi servent les vacances ? Et vous êtes interviewé dans ce 1 spécial et vous dites qu'avec les vacances, le monde du travail s'est érotisé. Tiens donc !
Mais oui, parce que si vous voulez, bon, moi je m'amuse toujours à donner des chiffres, mais c'est assez amusant, mais si vous voulez, en moyenne aujourd'hui, on fait 3000 fois l'amour pour faire un enfant dans un couple, et on faisait en moyenne 100 fois avant la guerre de 14. Si on regarde un certain nombre d'études, c'est un peu à la louche, mais ça donne un ordre de grandeur. Pourquoi ? Ben parce que si vous voulez, les vacances, d'ailleurs elles ont été octroyées, c'était pas dans le programme de 36, le Parti communiste n'en voulait pas, ils avaient qu'une peur, c'est qu'on vise trop bien en société capitaliste et qu'on oublie de faire la révolution. Et donc les gens ont découvert les voyages, ils ont découvert les shorts, ils ont découvert la culture des anciennes aristocraties, la mer, la natation, les rentiers, tout cet art de vivre, et qui est devenu dominant dans nos sociétés, hein, puisque le travail dans nos sociétés, c'est à peu près 15 à 20% du temps des sociétés modernes. Et donc, du coup, notamment l'érotisation, elle s'est passée là. C'est d'ailleurs le lieu d'initiation de la jeunesse, etc. Donc, c'est pour ça aussi que ne pas partir en vacances souvent, c'est être exclu ou retardé dans l'entrée dans la société érotique dont nous sommes totalement envahis, qui est à la fois une libération par certains côtés aussi, bien sûr, une aliénation dans les publicités, tout ça, mais quand même... Je veux dire, jamais on ne s'est autant aimé, et c'est quand même un élément positif.
Merci beaucoup Jean Viard d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Et je rappelle ce 1 hors série, à quoi servent les vacances, avec une interview de Jean Viard.